C'est le vendredi 26 juillet, bonjour à tous et bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la canicule, le bout du tunnel, mais ces chaleurs exceptionnelles, on l'entendait tout à l'heure, ont un coût pour les assurances, un coût également pour la santé. Les autres titres, Laurence.
WN, l'ex-usine Whirlpool d'Amiens. Devant le tribunal de commerce ce matin, la meilleure offre de reprise ne prévoit la sauvegarde que de 40 emplois sur 160. La route maritime la plus mortelle au monde, plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur bateau au large de la Libye. L'Afrique, les médias, la face cachée des personnalités politiques, c'était les sujets de prédilection de Pierre Péan, le journaliste enquêteur, est mort à l'âge de 81 ans.
Et puis les invités de la matinale de France Inter, 7h50, Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Élysée, son livre Cuisine, leçon en pas à pas pour enfants, a été élu meilleur livre de cuisine au monde. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. La ministre de la Défense, Florence Parly, a dévoilé hier la nouvelle stratégie de la France en matière de défense. Bastien, on verra ça avec lui. Vos questions aussi dès à présent au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
On l'attend tous, elle arrive, la pluie, après plusieurs jours de température record, 42 degrés 6 à Paris, chaleur historique également à Lille, Strasbourg, dans une cinquantaine d'autres villes, nuit la plus chaude jamais mesurée en France, cette chaleur a également gravement asséché les sols. 77 départements sont concernés par les restrictions d'eau, autrement dit, le changement climatique a un coût, maisons fissurées, agriculteurs en grande difficulté, et cela se ressentira dans les prochaines années sur les assurances et les quittances d'assurance. Laurent Kramer.
La sécheresse coûte à elle seule près de 900 millions d'euros chaque année aux assureurs. Mais un épisode de canicule critique, comme celui de 2003, a dépassé en dégâts matériels les 2,5 milliards d'euros. Parmi les nouveaux sinistres liés à la sécheresse et qui font grimper les factures, ces fissures qui endommagent les maisons individuelles avec des terrains de construction asséchés qui gonflent plusieurs mois plus tard sous l'effet de la pluie et font craquer les murs des maisons. Les assureurs remboursent également aux agriculteurs les récoltes perdues par la sécheresse à condition pour l'agriculteur d'avoir souscrit une assurance multirisque climatique. Les épisodes de canicule pèsent également sur la bonne santé des assurés et sur les frais engagés par les mutuelles, voire sur les contrats de prévoyance, s'inquiètent les assureurs. Les aléas climatiques liés à l'augmentation des températures vont faire grimper de 150% les indemnisations versées aux assurés dans les 25 prochaines années.
Et puis cette canicule a mis en surchauffe les services de santé, mais qui, contrairement à 2003, était préparé à l'alerte rouge, davantage d'appels au numéro d'urgence pour des pathologies liées à la chaleur. Mais la prévention semble avoir payé pour le moment, comme l'explique Stéphane Gaudry, professeur de médecine au service réanimation de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en région parisienne.
Ça n'a rien à voir avec 2003, c'est-à-dire qu'en 2003, on avait des malades qui arrivaient pour des coups de chaleur. Les coups de chaleur, c'était un pronostic vraiment très très mauvais, des malades qui arrivaient avec des températures à 42, 43 de température corporelle, avec des défaillances de tous les organes, avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Là, nous, ce qu'on constate, c'est pas beaucoup de coups de chaleur, c'est des malades qui arrivent avec des pathologies, on va dire, un petit peu plus graves que quand il fait une température normale. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement grâce à l'hôpital, c'est grâce à ce qui se passe avant. La prévention a été très utile, justement, dans le fait de ne pas voir arriver ces malades très très graves qui mouraient beaucoup en 2003. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même un effet. Donc, comme les malades arrivent plus graves, il est à peu près sûr que quand on fera le point dans quelques semaines, on verra une augmentation de la mortalité. Mais globalement, la gestion est plutôt bien faite.
Encore une conséquence de la chaleur, le trafic du Thalys risque aujourd'hui d'être perturbé. Des retards sont à prévoir. Il est conseillé de reporter son voyage, recommande la SNCF.
Des dépenses globalement justifiées, mais quelques zones d'ombre pour les comptes de WN ex-Whirlpool.
C'est ce qui ressort de l'audit commandé par le ministère de l'économie. WN a perçu plus de 10 millions d'euros de subventions, dont 2,5 millions de l'État, mais quelques 179 000 euros posent question. En attendant, l'entreprise se trouve aujourd'hui dans une impasse de trésorerie faute de débouchés commerciaux concrets. En redressement judiciaire depuis le mois dernier, le tribunal de commerce d'Amiens doit étudier ce matin les offres de reprise. C'est un nouveau coup dur pour les salariés, les ex-Whirlpool, car le projet de reprise le mieux disant ne prévoit de conserver, quoi qu'il arrive au moins dans un premier temps, que 40 des 160 salariés. Manuel Ruffez.
C'est bien simple, c'est le projet présenté comme le plus solide, celui de l'entreprise Ageco Agencement qui pourrait employer 40 personnes sur le site dès septembre, avec une montée en puissance progressive pour atteindre une centaine de salariés, mais pas avant fin 2020. Et c'est, dit-on donc, la meilleure des offres de reprise, celle qui sera vraisemblablement validée par le tribunal de commerce. Ageco Agencement compte aujourd'hui 65 salariés pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2018. La seule autre offre connue est celle présentée par un salarié de WN, un cadre, Philippe Valton, qui souhaite poursuivre une activité mais avec moins de 10 salariés au départ. Pendant ce temps, l'État, la préfecture et les collectivités tentent de trouver des entreprises, non pas pour une reprise de WN, mais pour réindustrialiser le site laissé vide par Whirlpool. Il y a des mètres carrés disponibles. Il y aurait déjà des contacts solides pour y implanter au moins une activité différente, donc de WN, avec 30 emplois à la clé.
Manuel Ruffez, c'est la pire tragédie en Méditerranée cette année. Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage hier de leur bateau au large de la Libye. Une centaine d'autres migrants à bord de ce bateau qui a coulé au large de la ville de Homs, dans l'Ouest, ont été secourus. Ils vont être placés dans des centres de détention dont les conditions sont souvent dénoncées par les ONG. Le récit de Claude Guibal.
Un simple bateau en bois et 250 personnes à bord. Un naufrage, un de plus au large de la Libye. Plus d'une centaine de migrants, des femmes, des enfants ont disparu selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les gardes-côtes libyens et les pêcheurs ont récupéré et secouru 145 personnes. Le récit terrible de ces rescapés vient encore souligner l'absurdité vertigineuse du macabre bilan de la migration en Méditerranée. Ce naufrage est le plus meurtrier depuis le début de l'année. Il s'ajoute au 426 personnes déjà disparues en mer depuis le mois de janvier. Les passages par voie maritime ont certes diminué, mais le taux de mortalité, lui, continue à augmenter. L'an dernier, 6 morts par jour en Méditerranée est devenue la route maritime la plus meurtrière au monde. Lundi, Emmanuel Macron annonçait que 14 pays européens venaient enfin de donner leur accord pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité pour se répartir les migrants secourus en Méditerranée. Une décision accueillie avec grande prudence par les ONG.
Claude Guibal, de nombreuses personnes sont attendues cet après-midi à Rouen à la marche blanche organisée en hommage à Mamoudou Barry, cet enseignant franco-guinéen tué une semaine plus tôt à Cantleu. Les participants à cette marche devraient être très nombreux, tant le drame a ému et choqué. Rappelons que le motif raciste a été retenu par le parquet, mais le suspect aux antécédents psychiatriques ne peut encore être entendu en raison de son état de santé. Les organisateurs de cette marche attendent près de 2000 personnes, des bus sont même affrétés depuis Paris et d'autres marches sont en train d'être organisées dans plusieurs villes françaises. Un seul mot d'ordre, dit l'organisateur, rester pacifique. Khalil Keïta.
Le mot d'ordre donné par la famille de M. Barry, je pense qu'il doit être respecté, c'est celui de faire preuve de pacifisme, en fait. Donc, ce sera une marche pacifique. C'est ce qu'en tout cas souhaiterait notre cher collègue qui a perdu la vie ce vendredi passé. Donc, chacun doit respecter cela, ce principe-là. C'est vrai que nous sommes habités par, je dis pas par la colère ou par la haine, mais par un sentiment de justice, que justice soit faite. Mais je pense que nous pouvons exprimer cela dans le calme, dans le respect des lois de la République, sans débordement. Il faut rester non violent.
7h08, la suite du journal Laurence Thomas, avec la mort de l'écrivain journaliste d'investigation Pierre Péan.
Et son coup de maître restera le livre « Une jeunesse française sur le passé trouble de l'ancien président socialiste François Mitterrand pendant l'occupation ». Des polémiques, il enquêtera également sur Jacques Chirac, Bernard Kouchner, Jean-Marie Le Pen. Pierre Péan passera par l'agence France Presse, l'Express, le Canard enchaîné qui sortira l'affaire des diamants offert par le centrafricain Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing. Tiers-mondiste dans l'âme, Pierre Péan avait 81 ans, mais il n'aimait pas le terme de journalisme d'investigation. Il s'en explique sur la web TV, tvsurerdre.fr.
C'est vrai que le mot journaliste d'investigation m'a toujours agacé. J'ai plein de raisons pour ça, parce que c'est la première fois qu'on a employé le mot journaliste d'investigation en France. Je pense que d'ailleurs c'est à mon propos. C'est un article du Monde en 1984. Mais c'était en fait une traduction. C'était par les journalistes de Watergate. Et donc ça avait un côté américain. Et moi, le côté investigation aussi me fait penser aux flics. Moi, je ne veux pas. Le journalisme et flic, c'est deux métiers totalement différents. Et donc, j'ai enquêteur, je trouve que on est. Tous ceux qui sont journalistes sont enquêteurs. Moi, j'ai pas besoin qu'il y ait une catégorie spécifique, genre de noblesse, ça m'intéresse pas.
Pierre Péan. Le Tour de France, à présent, il s'attaque aujourd'hui au col de l'Iseran. C'est dans les Alpes. C'est surtout le toit de la Grande Boucle 2019.
2770 mètres d'altitude. L'ascension de l'Iseran se fera sur son versant le plus dur depuis la vallée de la Maurienne, avec une pente à 7,5% de moyenne pendant 13 km. Une étape dynamique de 126 km et demi promise aux grimpeurs. Alaphilippe, le Français, toujours en jaune. Mais le Colombien Bernal se rapproche du Français au général. Mais aujourd'hui, silence sur le Tour de France. Les hélicos du Tour ne pourront pas survoler une zone très précise du parc national de la Vanoise, sous le col de l'Iseran, à cause des gypaétons. Et oui, les bébés gypaètes prennent leur envol et c'est un moment crucial à respecter. Annabelle Galotti.
Il y a des dizaines d'hélicos qui survolent le peloton en permanence pour la presse, pour la sécurité, pour les VIP. Mais au niveau du col de l'Iseran, quand les coureurs seront dans la partie qu'on appelle cœur de parc, il n'y aura plus qu'un seul hélico, priorité aux espèces protégées, des contraintes désormais bien connues des pilotes. Eva Aliakar est la directrice du parc national de la Vanoise.
Ce n'est pas la première fois qu'ils passent dans un parc national. Donc, ce sont des problématiques qui sont intégrées, notamment les points GPS de tous les sites de GPS étaient déjà intégrés dans les cartes du pilote des hélicoptères d'ASO quand on les a rencontrés en novembre.
Donc un plan de vol sera défini le jour même en fonction des petits GPS. Pour cela, le parc a déjà les cartes des sites de reproduction et a repéré les gypaètes qui se sont déjà envolés.
Donc il ne faut pas que l'hélicoptère dévie sur les côtés et survole le cœur de parc. Et donc simplement sur la partie vers le col de l'Iseran, on sera sur l'ensemble des hélicos au-delà de 1000 mètres, sauf l'hélicoptère de relais qui sera exactement au-dessus de la route. Mais nous n'avons aucun site de reproduction, ni d'aigle, ni de gypaète sur cette montée-là.
Au sol, dans le parc et la zone cœur de parc, il faudra respecter également la faune et la flore unique dans ce secteur. Une large information est diffusée sur place.
Annabelle Galotti, ce soir sur France Inter, ne manquez pas, 19h20, un téléphone sonne spécial Tour de France.
Merci Laurence Thomas, et ce sera présenté par Yves Decamp.